On enregistre.
Petit frère du flipper et autres machines à sous qui ne se rencontrent à guère que dans les cafés, les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour.
Hero. Il y a un jeu qui a 30 ans.
C'est dangereux d'être là, prends une épée.
C'est pas du travail de sagouin dans ce podcast.
C'est un peu rude.
Ouais, gros scénario.
Tu vis ton aventure.
À la base, c'est un cochon bleu.
Tu t'es fait engueuler parce que c'était une ligne surtaxée.
Vous avez aimé le premier, vous n'aimerez pas le deuxième.
Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode de Passe la manette, déjà le quatrième. Alors il y en a qui vont dire déjà quatre épisodes au bout de presque un an. On est désolé, n'est-ce pas? On essaye d'avoir un rythme un peu plus soutenu en cette année 2021 et ça reste une déclaration d'intention. On va essayer de s'y tenir au mieux. Et pour parler du sujet du jour, on va être pas trop 2-3 cette fois. Puisque on a Gilles Tanas qui nous rejoint.
Bonjour à tous.
On a toujours le sémillant, l'indétrônable Gilosène.
Oui, bonjour à tous. Je tiens à signaler que j'ai un nouveau micro.
Voilà. N'hésitez pas à aller mettre en commentaire que la qualité sonore est bien meilleure chez Gilosène. Ça lui fera extrêmement plaisir et il regrettera pas son achat. Et je suis Geeks, toujours pour vous servir. Voilà, voilà. Donc, vous avez cliqué sur ce podcast, donc vous savez probablement de quoi on va parler. On va parler de la légende de Zelda. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, cette année, c'est les 35 ans de la sortie du premier jeu. Donc, la saga Zelda a officiellement 35 ans. On s'est beaucoup tâté à la rédac pour savoir comment rendre un hommage à cette saga Zelda mythique. Au départ, on voulait faire un gros numéro qui aurait duré assez longtemps et finalement on trouvait ça un peu indigeste. Et finalement, la décision a été prise de découper les podcasts, de faire plusieurs podcasts Zelda dédiés chacun à un ou plusieurs jeux sur certaines périodes temporelles. Donc là, par exemple, pour ce premier podcast Zelda, on va parler des jeux NES. Donc, on va parler du premier Zelda, The Legend of Zelda, qui est sorti en 86, et sa suite, The Legend of Zelda, The Adventure of Link, sorti en 88. Si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est 88.
Voilà, 87 donc... au Japon.
Donc, aujourd'hui, on dédie ce podcast à ces deux jeux, et il y a beaucoup à en dire, donc on va plonger directement... Retour en 1986, Gilosène, si tu veux nous raconter ce qui s'est passé, parce que Gitas et moi, on n'était pas nés.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est vraiment petit quand même.
Oh la vache. Merci.
Ah, c'était le petit stab.
Ouais, ça commence bien. Hein. Je pense que je vais vous laisser la manette si ça continue, parce que là, c'est un peu rude. Alors moi, je précise tout de suite que je suis pas un grand expert de Zelda. Hein. En tout cas, des premiers, hein, je sais, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est un peu étrange. Là, c'est pas les premiers que je connais le mieux. Je peux quand même en dire, bien sûr, quelques mots. Donc, concernant ce premier volet, comment ne pas citer, bien sûr, Shigeru Miyamoto, et qu'on ne présente plus, hein, quand même, c'est le grand créateur de Nintendo, et Takashi Tezuka, personnage beaucoup plus discret, mais qui est quand même très important lui aussi. Notamment dans ce premier épisode, c'est à lui qu'on doit l'histoire et le script. Alors, même si évidemment, à l'époque de la NES, on va dire que l'histoire est encore assez simple, il faut rester aussi dans les limites permises par les capacités du support, tout simplement. Et puis justement, en parlant de ça, ne pas oublier le programmeur Toshihiko Nakago, qui est un autre complice de longue date de Miyamoto, puisque justement, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et puis, pendant la conception du jeu, d'ailleurs, il arrivait parfois qu'ils avaient tellement de boulot que les deux, ne se quittent pas, même la nuit, pour dormir, histoire de redémarrer au plus vite le lendemain. Voilà, ça, c'est pour un peu l'équipe, la triforce de cet épisode.
Ah bah, Miyamoto et ses deux bras droits, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai que Tezuka est toujours souvent présenté comme son bras droit. Après, j'ai l'impression qu'il a aussi une identité propre, bien sûr. Et puis, comme beaucoup de monde le sait peut-être déjà, Zelda, au départ, emprunte un certain nombre d'éléments à un film qui était sorti encore un an plus tôt, alors, donc vous étiez encore moins né, si je puis dire, avec le film de Ridley Scott, Legend. Donc, pas son meilleur film, hein. Non, mais un film qu'on connaît surtout pour son méchant, donc Darkness, le gros diable cornu, et puis bien sûr Tom Cruise dans le rôle de Link, enfin d'un simili-Link.
Tom Cruise jeune, hein, il avait quel âge? Moins de 23 ans.
Il était encore très jeune.
Il est toujours jeune, Tom Cruise.
Et il faudra quand même citer qu'effectivement, si vous ne connaissez pas ce film, vous allez vous taper juste Legend, Ridley Scott, Tom Cruise sur, dans Google Images. La tête du méchant vaut vraiment la peine. Sachant qu'en version américaine, il me semble qu'il a les yeux roses, ce qui lui donne vraiment un côté particulier.
Ah oui, bon, ça, je ne me rappelle pas de ce détail.
Moi, il me semble. J'ai vu qu'il y avait une petite différence.
Qui se cache derrière Darkness, mais bon. Bref, en tout cas, voilà, Legend, pour le coup, c'est un film avec un univers héroïque fantasy très marqué et très haut en couleur. Donc, il y a quand même une influence assez directe sur l'esprit du jeu, mais évidemment, c'est pas la seule source, puisque Miyamoto, dans sa jeunesse, se promenait beaucoup dans la nature, et il a toujours voulu qu'on retrouve cette sensation de dépaysement, d'émerveillement, de découverte de l'inconnu. Par exemple, quand on met le pied dans un bois qu'on n'avait pas encore découvert, ou qu'une grotte se profile au loin, alors qu'est-ce qui peut se cacher dans cette grotte ? Voilà, c'est quand même des sensations très liées à cet esprit de découverte, et voilà, c'est valable pour toute la saga, hein, mais déjà à l'époque, dès le premier épisode, c'était une de ses volontés. Et puis, si ça ne suffisait pas, il y avait aussi le développement en parallèle par la même équipe de Super Mario Bros. Donc, comment développer deux classiques en parallèle.
Diamétralement opposés.
Voilà, du jeu vidéo. Et puis, en parlant de jeu vidéo, il y a aussi l'influence de titres plus anciens, forcément, comme Tower of Draga et Idlid. Je ne sais pas exactement comment on le prononce, celui-là.
Moi, je dis Idlid.
Oui, Idlid. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé de vidéos là-dessus pour la prononciation exacte, mais à coup de pas. Mais voilà ce qu'on peut peut-être dire rapidement sur la genèse du projet.
Tu as des influences très marquées fantasy des années 80 dans le premier Legend of Zelda. Au-delà de Legend, je pense à t'as cité Idlid. Bon, Idlid, ça va être, je pense que l'inspiration va être surtout pour la, pas tant pour l'histoire, parce que l'histoire est vraiment, elle est pourrie. Autant dire ce qui est. Je crois que l'histoire d'Idlid, tu as des histoires de, tu luttes contre des méchants orques qui sont contrôlés par un super ordinateur. Il me semble que c'est un truc comme ça. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que l'histoire, c'est ça. Et les orques, ce n'est pas les orques de Tolkien, hein, c'est les orques qui sont dans la mer. C'est assez. Donc ça, c'est l'histoire d'Idlid. Et tu es assisté par des dauphins intelligents. Mm-hmm. Ouais, gros scénario. Donc je pense que l'inspiration d'Idlid, c'est surtout pour la pile de sauvegarde, en fait. Pour la capacité à sauvegarder ton jeu.
C'est aussi pour la carte du monde.
Et pour la carte du monde, ouais, effectivement, pour ce côté-là.
Et là où Tower of Draga, c'est surtout les donjons, hein, parce que pour les gens qui ne connaissent pas ce magnifique jeu, il faut monter une tour. Voilà, c'était une grosse révélation.
Mais c'est que ça, hein. Je crois que tu as 60 niveaux, c'est que ça.
Tu montes, il faut trouver des objets, et si t'as pas le bon objet, des fois tu peux pas monter, etc. Mais c'est une idée de donjon. Chaque niveau est un petit donjon en lui-même. Et Idlid, c'est vraiment la carte du monde. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je rappelle que dans The Legend of Zelda, la carte qui s'affiche en haut de votre écran indique simplement dans un grand carré gris. Un petit carré de couleur verte, je crois, qui clignote. Là où vous vous trouvez, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'un endroit que vous avez déjà exploré, quand vous allez le quitter, ne va pas réapparaître sur votre carte. Ça va être à vous de dessiner votre carte sur un bout de papier pour dire si je vais trois fois à droite, il se passe ça. Si je vais trois fois à gauche, il se passe ça. À certains moments, il faut aller deux fois à droite, une fois à gauche, etc. pour ouvrir un passage, ce genre de choses. Donc c'est un... Je pense... qui a aussi une certaine influence du jeu de rôle papier, notamment dans l'idée de dessiner des plans.
Ce qui se faisait quand même beaucoup dans les années 80.
Ah oui, c'est une obligation. C'est jouer au premier Zelda, on va dire vierge de toute influence extérieure, sans un papier, un crayon à côté, c'est assez difficile.
Ouais, c'est d'autant plus difficile que quand tu allumes le jeu, donc à l'image en fait hein, de Breath of the Wild, tu es plongé dans le monde et pire que Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild, tu as les 4-5 premières heures quand même où tu es guidé, on te donne en gros tout ton set de pouvoir et tout, puis on te dit maintenant tu te débrouilles. Legend of Zelda, enfin le premier, tu as quand même, t'allumes, on te donne l'épée et débrouille-toi.
Ouais, c'est ça. C'est dangereux d'être là, prends une épée.
Voilà, vous connaissez peut-être ce fameux mème avec Link et le vieux sage qui lui dit « It's dangerous to go alone, take this » et qui lui tend l'épée.
Mais c'est déjà une épée qui jette des
Internet,
éclairs.
Ça vient de là, c'est je pense les premières secondes du jeu.
Alors techniquement, on apparaît au milieu, il faut 3 secondes pour aller dans la grotte, oui. C'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça. Je rappelle quand même que Breath of the Wild, techniquement, c'est « on arrive, on a une quête ». Vaincre Ganon, point. Tout ce qui se passe à côté, ouais. C'est à toi de le voir. Et là, c'est un petit peu le même. C'est pour ça qu'on avait parlé à l'époque de la sortie de Breath of the Wild de la grosse influence du premier Zelda, c'est qu'il y a une quête. Il faut vaincre le méchant et après, tu vis ton aventure. Alors, c'est conditionné aux limites techniques de la machine, parce que je rappelle que le jeu est sorti sur une disquette à l'époque au Japon, puis après sur les fameuses cartouches dorées en France qui donnaient l'impression d'avoir un vrai trésor entre les mains. Au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, c'est on fait soi-même son aventure, on va explorer, est-ce que je vais farmer les rubis pour m'acheter tous les objets dans toutes les petites boutiques, ce genre de choses. Il n'y a pas un chemin conditionné. On a un ordre de donjon à respecter, mais comment on y arrive, c'est notre choix.
Ouais, c'est ça qui est intéressant dans ce premier Zelda, c'est qu'en 86, tu as un open world.
C'est ça.
Personne ne l'appelait open world à l'époque, mais ça a marqué justement les joueurs parce que ça arrivait et tu avais cet univers qui était gigantesque, hyper plaisant parce que du coup c'était à toi de découvrir les choses et il y avait cet aspect non linéaire que diamétralement opposé au niveau d'un Mario. Tu peux pas faire plus linéaire que ça. C'est du coup complètement novateur, quoi.
Puis il y a du contenu en fait. C'est pas un open world, on va dire, on se promène et il se passe pas grand chose. Là, il y a quand même 8 donjons plus le donjon final. Il y a des objets à récupérer. Il y a pas mal de choses à faire en fait. C'est assez riche.
Et puis ça, c'est vraiment la patte Miyamoto, je trouve. La manière de jouer, rien que le fait de pouvoir mettre 2 objets et de les assigner sur le bouton A et B de la NES, parce qu'à l'époque, les manettes de NES, elles étaient beaucoup mieux que les manettes de Master System. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu des manettes de Master System, je pense que c'est on est dans une autre époque. Je sais pas combien, je crois qu'il y a que 2 boutons.
Il y a 2 boutons, mais la croix et il y a 8 directions possibles.
Oui, c'est ça. Et alors que la manette de NES, alors attends,
c'est haut, bas, gauche, droite, BA et Start Select. Voilà. Il faut rappeler que pour défiler dans les menus, on n'appuyait pas sur la croix directionnelle, on appuyait sur Select.
Ce qui change pas mal de choses.
Ah ben, il suffit de prendre le portage qui a été mis sur le Nintendo Online sur Switch. Pour voir beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de défiler avec leur joystick, alors qu'en fait, il faut sélectionner Select.
Oui, oui, et ça me le fait beaucoup hein, sur le portage, ce portage Switch. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, ouais, effectivement, tu l'as dit, c'est un jeu qui a du coup une durée de vie qui est plus longue que la plupart des autres jeux de l'époque. Je ne sais pas combien de temps il prendrait aujourd'hui à un joueur pour le finir. Je pense peut-être au moins 5-6 heures.
Au moins, parce que à titre personnel, je suis en train de le refaire.
Ouais.
C'est seulement la deuxième fois que je le fais. J'ai vraiment tout oublié. C'est long, en fait, de se rappeler les chemins, etc. Après, comme je le disais en préparation du podcast, c'est aussi un jeu qui fait l'objet de speedrun et le record du monde de 27 minutes. Mais là, on est face à quelqu'un qui connaît le jeu par cœur. Je pense qu'en mode vraiment découverte, il y en a pour une dizaine d'heures, oui. Ce qui, pour un jeu NES, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a beaucoup de jeux de plateforme qui se terminent en 40 minutes.
Ça me fait rire, parce que je relisais des interviews de la directrice marketing de Nintendo France de l'époque, qui disait carrément, en fait, un de ses arguments de vente, c'était de dire « Mais attendez, si vous jouez à Legend of Zelda, vous pourrez y jouer pendant 350 heures. »
Alors, oui.
Et du coup, ça me fait rire de lire ça maintenant, si tu veux. C'est voir en fait, c'est comment on te vendait la profondeur de ce monde en fait, de ce jeu par rapport à d'autres. Parce que à l'époque, je rappelle, il n'y avait pas non plus Final Fantasy 1. Hein, le premier Final Fantasy allait sortir qu'un an plus tard.
Il me semble que ça sort que la même année que le premier Dragon Quest.
Ça sort la même année que le premier Dragon Quest, exactement. Premier Dragon Quest qui, pareil, se finit assez vite. Oui. Mais le système de jeu reste assez Oui, Gilo.
Non, mais de toute façon, comme vous l'avez rappelé si gentiment tout à l'heure, on parle d'une époque où, voilà, c'est 87.
Je suis né en 87.
Les gens, de toute façon, voilà, tu peux jouer déjà une bonne dizaine d'heures, effectivement, c'est déjà beaucoup.
D'où les difficultés parfois très élevées des jeux, qui permettaient de compenser les durées de vie un peu faibles.
Ouais, c'est ça. Mais alors, j'avais eu une discussion intéressante la semaine dernière avec mon frère à propos de la difficulté des jeux Zelda. Et lui, il me disait que c'était antinomique, que tu n'avais pas vraiment de difficulté dans les Zelda, quoi. Je pense qu'en fait, il comparait ça, tu sais, aux séries genre Souls. En y repensant, la difficulté d'un jeu Zelda, elle va se trouver dans la résolution des énigmes, principalement, quoi. Pas dans le fait de devoir refaire 10 000 fois le même boss.
Après, il faut se mettre aussi, je pense, en tête que c'est un jeu d'aventure.
Ouais, aussi.
Ce qui est important, c'est le chemin que tu parcours. Les épreuves qu'on te met sur la route sont là pour te donner un petit peu de fil à retordre, mais elles sont surtout pas là pour t'empêcher d'avancer. C'est pas le propos du jeu, en fait. Le propos du jeu, c'est que toi, en tant que joueur, tu vives une aventure. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je pense qu'on viendra dessus, mais c'est un jeu qui a une chronologie très éclatée. Tous sont différents et tous essaient d'inventer quelque chose de nouveau. Je pense que ça n'aurait pas de sens de mettre un Zelda avec un boss à pattern très difficile à battre, pour reprendre l'exemple de Dark Souls, et que tu bloquerais dessus pendant 5-6 heures avant de comprendre vraiment le truc et de devoir faire un sans faute. Pour moi, tu explores, et quel que soit le jeu, hein, même le 2 sur lequel on reviendra, tu explores, tu discutes avec les gens, tu découvres l'univers, tu vas découvrir des secrets, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans Zelda. Tu as des combats pour donner un petit peu de... Au cinéma, c'est les beats, je crois. Les beats positifs, ouais. Les beats négatifs, voilà, pour te maintenir dans un rythme, et puis c'est parti, quoi. C'est pas le propos, et je pense pas que, sans vouloir m'avancer, que c'était dans la tête de Miyamoto de mettre un jeu difficile, en fait.
Tu sens que c'est pas vraiment ce qui l'anime, effectivement. Ah oui, tiens, un truc qu'on a quand même pas précisé, hein, pour les gens qui connaissent assez, enfin, qui n'ont pas connu les premiers Zelda, faut quand même préciser que le grand méchant, donc Ganon, à la base, c'est un cochon bleu. Hein. Mon premier Zelda, c'est le Zelda Super NES, donc A Link to the Past, où Ganon est un cochon bleu également. Assez difficile à battre, d'ailleurs, au passage, le combat est assez épique. Si t'es un peu plus jeune, que t'as commencé par des épisodes, soit les épisodes 64, soit après, Ganondorf, c'est plus un cochon bleu du tout, hein, c'est un être humain.
Oui.
T'as un parti pris design, au niveau du design, qui est déjà un peu, j'allais dire, pas cartoonesque, mais qui aurait tendance à s'en rapprocher.
Après, on retrouve aussi, étant donné que c'est le premier, c'est celui aussi qui pose tout le bestiaire.
Aussi.
Il y a quasiment tous les monstres qu'on retrouve là-dedans, qui sont après retransposés d'une manière ou d'une autre dans les épisodes suivants. Mm-hmm. On a les fameux moblins, on a les... Alors moi, j'appelle ça des oursins, mais ce qui sort du sable pour venir te taper.
Les auras.
Les auras, on a les mains dans les donjons qui te ramènent à l'entrée, les fantômes, c'est les squelettes, ce genre de choses. Il y a beaucoup de créatures qui sont là et qu'on retrouve pas toujours dans les épisodes suivants, mais qui reviennent dans d'autres régulièrement.
Très souvent.
C'est parce que on a parlé de Ganon, il y a aussi Zelda, hein, voilà. Donc je rappelle pour ceux qui feraient encore la différence que le héros s'appelle Link et pas Zelda. Voilà, merci de penser de penser à nos petits cœurs. Il y a la Triforce qui est là, il y a
Tu as la Triforce, mais tu n'as pas encore le découpage de la Triforce.
Non, mais il y a déjà le terme qui est utilisé.
Il y a déjà le terme, mais tu n'as pas encore l'évocation Triforce de la Force, Sagesse, Courage. Ça vient vraiment à partir de l'épisode de Ocarina of Time, hein, 64. Hein. Tu l'as pas dans A Link to the Past. Tu l'as pas. En tout cas, tu l'as pas à l'époque. Mais en fait, voilà, tu poses les bases effectivement de cette Triforce. On est aussi un peu comme Mario. Tu dois aller sauver la princesse Zelda, enfin sauver la princesse.
Mais c'est un prétexte, encore une fois. Prétexte à l'aventure, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier sorti, encore une fois, c'est pareil. C'est OK, voilà, tu as ça à faire. Va fracasser le méchant si tu veux. Tu peux y aller tout de suite. Hein. Il y a des gens qui l'ont fait. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu prendrais l'autoroute pour arriver où tu veux alors qu'il y a plein de petits chemins à côté où tu vas découvrir mille et une choses?
Bah parce qu'il y a trop de jeux à faire, ma bonne dame, et que du coup, je peux aller frimer en disant que j'ai fini Breath of the Wild en 5 heures, alors que tous ces gens-là ont mis des centaines d'heures à le finir. Moi, je comprends pas.
Ben, je pense que c'est un problème de compréhension du propos du jeu. Mais ça, ça n'engage que moi.
Chacun vit son aventure comme il le souhaite. Par contre, attends, de mémoire, tu n'as pas de... T'as pas vraiment de quête annexe dans celui-là. T'as pas... De toute façon, t'es sur NES. Hein,
C'est surtout les objets qui débloquent des nouveaux endroits, etc.
C'est ça.
Il n'y a pas, non. Il n'y a pas de... Il y a pas cette fameuse quête qu'on a, comme par exemple Link's Awakening. Cette quête qui n'a ni queue ni tête.
Oui.
Il faut échanger des bananes contre des boîtes de conserve, des coquillages, etc.
Très mauvais souvenir. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de Link's Awakening dans son épisode. Il y aura droit. C'est pas mon préféré, donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Ah, j'ai Gildanas qui m'a fait un signe que je n'ai pas compris. Ah oui, il m'a fait le signe de Vader Retro.
De fuir. C'était le meilleur Link's
Awakening. Ben, je sais que tu l'apprécies beaucoup. Et il est apprécié, il est énormément apprécié. Moi, je dois avouer, c'est pas celui qui m'a fait le plus grand effet. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, pour le coup, c'est ce jeu. Donc, on avait dit qu'il était sorti en 86 au Japon, le 21 février. Il sort ensuite aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en juillet 87. Donc quasiment un an et demi plus tard. Donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc il était marqué comme étant sorti en Europe en novembre 1987. Mais fait intéressant, vous prenez une machine à remonter le temps et que vous arrivez en novembre 1987, vous allez avoir du mal à tomber sur un Zelda dans le carrefour ou le mammouth du coin, pour celles et ceux qui s'en rappellent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors c'est assez intéressant, et là je m'appuie sur un travail vraiment... vraiment passionnant de Florent Gorge pour les cahiers de la Playhistoire qui est un spécial hors-série qui était sorti en 2017 où en fait dans le magazine ils se sont intéressés au fait que la date de sortie française du premier Zelda est hyper obscure. En fait, jusqu'à il y a 4 ans, si vous alliez sur le Wikipédia de The Legend of Zelda, premier du nom, vous n'aviez pas la sortie française exacte. Enfin, on savait pas exactement quand c'était sorti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, les jeux étaient distribués par des distributeurs entre guillemets officiels qui géraient des zones différentes en Europe déjà. Donc, faut savoir que nos voisins européens, ils ont certainement eu Zelda premier du nom avant nous. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. D'ailleurs, il y avait des imports qui venaient d'Angleterre. Nous, quand on parle d'import, on va parler d'import en japonais, mais à l'époque, on pouvait parler d'import anglais, quoi. Et parce que les jeux allaient sortir avant outre-Manche. Les jeux Zelda ne sont pas sortis en novembre 87 en France, parce qu'à l'époque, en novembre 87, c'était une société qui s'appelait ASD, qui gérait la distribution des jeux et qui en fait a fait faillite en janvier 88. Et ça a été repris. Du coup, la distribution des jeux a été reprise par Bandai. Donc longtemps, Nintendo France a été associé à Bandai qui faisait la distribution. Il y a eu plusieurs autres soucis. Si tu regardes un peu dans les magazines de l'époque, tu vas pas trouver de test du jeu Zelda avant 1988. Tu vas tomber sur un premier test en mars 88. Ensuite, plus rien. Tu vas tomber sur une pub qui va te dire une pub de Bandai qui va te dire que le jeu sort en juin 1988. Donc plus de deux ans après la sortie du jeu, hein, quand même au Japon. Sauf qu'en fait, le jeu ne va sortir véritablement qu'en octobre 1988 en France. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y avait à l'époque vraiment des gros problèmes de distribution. Il y avait une politique de Nintendo of America qui était assez dure vis-à-vis de Nintendo Europe. Et en fait, concrètement, Nintendo of America, à l'époque, la production des jeux, la production des ROM coûtait cher, la fabrication coûtait cher, ça prenait du temps. Et en fait, Nintendo of America se gardait tous les bons jeux, tous les hits. Refilait les jeux tout pourris ou anciens à l'Europe. Donc, ce qui fait que certains jeux, comme Zelda, sont sortis au compte-gouttes à l'époque. mais vraiment, vraiment, pour le coup, au compte-gouttes. Et en plus de ça, si tu veux, les journalistes n'avaient pas non plus la pression de coller à l'actualité, comme là, actuellement. Aujourd'hui, nous, quand un jeu va sortir, on va forcément trouver des tests partout. On va trouver des tests du jeu parce que les journalistes suivent l'actualité. Mais à l'époque, c'était pas ça. Il y avait beaucoup de délais. En fait, il y avait beaucoup il y avait une différence entre la sortie du jeu et le moment où tu pouvais le voir tester dans un magazine. Tout simplement parce que les journalistes n'avaient pas autant de pression. Donc, ils pouvaient recevoir déjà des jeux quand ils les recevaient. Et puis, ça pouvait traîner un moment avant d'être testé. Ce qui fait que tu n'as pas énormément de tests de The Legend of Zelda dans les magazines spécialisés avant. Je pense que les premiers, ça commence en 89. Enfin, tu commences à en avoir en 88, mais ça commence vraiment à arriver en 89. Et donc voilà, et donc si tu veux, les plus chanceux, ils ont pu avoir Zelda en France fin 88, mais ça a vraiment, tu as commencé à vraiment avoir un approvisionnement du jeu en 89, début 89. Donc, presque 3 ans après la sortie du jeu au Japon.
Déjà même voilà. Après la sortie de Zelda 2 au Japon.
Exactement. Et c'est donc Zelda 2 sortait au Japon et tu commençais à avoir le jeu qui se diffusait enfin massivement en France. Et quand on dit diffusion massive, c'était Carrefour, Leclerc, Mammouth.
Oui, bah c'est clairement une autre époque. Hein. Aujourd'hui, ça paraît vraiment impensable.
Cette interview de l'ancienne directrice marketing de Nintendo France qui disait clairement que c'était une galère de négocier avec Nintendo of America parce qu'il fallait toujours quémander et que pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est 10 Zelda qu'ils allaient t'envoyer, tu devais accepter 100 Duck Hunt.
Et oui, parce qu'on parle souvent de la guerre Super NES Mega Drive, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu des prémices entre la NES et Master System, parce que la Master System bénéficiait des meilleures adaptations d'arcade, parce qu'il faut savoir que ces consoles-là ont aussi vu passer énormément d'adaptations de jeux d'arcade, et du coup, elle avait une certaine aura que les jeux comme soccer, tennis, Duck Hunt et cette ribambelle de... Pas de mauvais jeux, hein, mais qui...
Des vieux jeux
qui n'avait pas de saveur, en fait. C'était difficile de lutter quand en face, on avait des choses beaucoup plus intéressantes. Et quand on a une pépite comme Zelda et qu'on se dit, ça va vendre des consoles, etc. Et qu'à côté, on dit, OK, on vous envoie, mais par contre, il faut nous vendre tous les autres trucs à côté. Je comprends se tire un petit peu une balle dans le pied. Quoi.
Tu tires la langue, et effectivement, tu le dis bien, mais Zelda, l'arrivée de Zelda en France, ça a permis aussi... En Europe, je pense plus largement, ça a permis de légitimer davantage Nintendo parce qu'à l'époque, effectivement, quand tu avais la Master System et que tu avais des jeux d'arcade sur ta console, c'était génial. Il faut se remettre à l'époque. Par contre, tu avais la NES et tu avais un jeu comme tu voulais jouer un jeu de foot et tu avais soccer. Ouais, bon, super. Tu avais Mario versus Donkey Kong qui était sorti depuis au moins au début des années 80. Un jeu qui avait fait la décennie des années 80 et que tu trouvais encore qui était vendu comme une nouveauté quoi à l'époque dans les magasins. Donc si tu veux, c'est aussi lassant quand toi tu avais acheté la NES qui à l'époque coûtait son prix quand même et que tu avais pas énormément de jeux à te mettre sous la dent. Et donc quand Zelda est sorti, du coup, ça a pu en fait inverser tout ce qui se disait sur Nintendo, tout le côté c'est des jeux soit pour les gamins, c'est pas des jeux très sérieux, c'est un peu nul, un peu chiant. Vas-y, joue à Zelda. Elle va jouer 350 heures à Zelda.
c'est ça, ça compense.
C'était un argument de plus contre les gens qui disaient c'est mieux de jouer au jeu sur micro.
Ouais.
Voilà, c'était énorme. C'était, voilà, c'était...
Non, mais même, je pense qu'on n'en était pas encore là. Fin 80, le micro-ordinateur, c'est vraiment un univers à part. Et c'est pas les gens qui vont dépenser leurs pièces de 5 et 10 francs dans les bandes d'arcade se tournent en grande majorité vers les consoles de salon. Parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup de la Master System et de la NES, mais il n'y avait pas que ça à l'époque. Hein. Il y en avait énormément.
Ah, tu avais Amstrad.
Atari.
Atari a fait faillite en 83 lors du crash, du premier crash du jeu vidéo en 1983.
Voilà, alors, histoire... bah, le gros Atari, c'est l'Atari 2600, mais on est fin 70 quand il sort celui-là. T'as l'Intellivision, t'as le Commodore, t'as... Oui.
En fait, c'était vraiment des ordinateurs, des gros ordinateurs de l'époque qui pouvaient faire tourner des jeux de l'époque. Je pense notamment à des jeux comme Ultima, ce genre de choses, mais il y en a plein d'autres.
Il faudrait qu'on fasse un épisode sur la série Ultima et sur Richard Garriott.
Écoute, avec plaisir, mais je ne pourrais guère en parler. Je crois que je n'ai jamais, j'ai jamais touché.
Oui, mais t'as sûrement joué à un jeu dont le créateur a joué à Ultima.
Ah, ça c'est sûr. Ça, il y a des chances. Enfin voilà, donc tout ça c'était, enfin pour dire que effectivement, le à l'époque, si vous étiez américain, enfin ou canadien, vous pouviez sur votre NES avoir des super jeux comme Gradius, Gauntlet, Zelda, Dragon Quest. Si vous étiez un joueur européen, vous aviez Duck Hunt, soccer. tennis et slalom, et il fallait s'estimer heureux, quoi. Donc Zelda a quand même changé ça. Et un truc qui est assez intéressant et que vous allez retrouver sur la très bonne série High Score sur Netflix, qui raconte l'histoire du jeu vidéo, et où il y a un passage sur Zelda. Et en fait, c'est la sortie du premier Zelda, c'est le développement. En fait, ça a forcé Nintendo à développer vraiment des hotlines. Donc c'est-à-dire des équipes prêtes à répondre au téléphone à des personnes bloquées dans le jeu et qui veulent se faire aider. On est vraiment dans une ère avant Internet. Moi, j'ai utilisé la hotline plusieurs fois aussi. La hotline, ça a duré jusque dans les débuts des années 2000. Hein. Facile.
Tu t'es fait engueuler parce que c'était une ligne surtaxée.
Oui, exactement. comme bien des enfants geeks de mon époque, je me suis fait. Et puis le pire, c'est que c'était tellement surtaxé que tu avais beau passer un coup de fil, tes parents en fait le voyaient parce que ça ressortait tout de suite sur la facture.
Mais c'est du coup, ça permet d'en revenir au fait qu'on a un univers qui est très large, parce que là, j'ai la carte sous les yeux, et c'est vrai que pour un jeu de 86, quelqu'un qui est habitué déjà, on va dire, ne serait-ce qu'à la plateforme, où le monde défile, là, on peut aller dans toutes les directions, enfin, au bas, gauche, droite, c'est très facile de s'y perdre, en fait. Et d'autant plus si on n'a pas pensé à faire un plan, ou si on n'a pas une soluce dans un magazine qui nous propose une carte, c'est assez difficile de s'y repérer. En fait, il a posé les bases d'un genre, l'action RPG. Et il en est, je pense, actuellement un des derniers représentants toujours vivant, parce que c'est un genre qui n'a pas connu un énorme développement finalement. Il n'a pas laissé de grandes traces sorties de Zelda. C'est assez difficile de citer un bon action RPG, pour prendre un peu d'accent, qui est traversé aussi bien les décennies. À moins que vous en ayez un tout de suite à me sortir, et là, dans ce cas-là, tant pis.
Bah, Secret of Mana, non, pour citer toujours le
ouais,
même.
Mais il a moins passé les épreuves.
Ah, forcément, il est sorti plus tard. Donc.
Mais moi, j'allais te citer Tales of Symphonia, mais c'est différent, et la série des Tales of, même si elle a son succès, c'est pas le même succès que Zelda.
Clairement pas.
Mais ouais, c'est le représentant principal de l'action RPG. Quand tu penses à l'action RPG, tu penses à Zelda, effectivement. Et ce premier opus a quand même bien posé les jalons du genre.
C'est ça qui est intéressant avec cette série, parce que ce qu'on disait, c'est qu'on en revient toujours au premier. Il y a toujours des bases, des clins d'œil, des bestiaires, etc. Mais cette série a une volonté de toujours vouloir se renouveler. Il y a aussi le fait que Nintendo insiste pour que chaque épisode soit adapté à la console sur laquelle il sort. C'est pas Spirit Tracks, c'est l'autre sur
Phantom DS, Hourglass.
Où il fallait souffler sur sa console.
C'est Phantom Hourglass.
Voilà. Je t'avoue que là... Voilà, ce genre de choses, où le fameux Skyward Sword, où il fallait jouer avec le Nunchuk.
Ah, puis, ça exploite effectivement, ça te vend, c'est vraiment un jeu qui te vend des consoles. Ça l'a été, ça a bien boosté les ventes de la NES à l'époque, parce que pour rappel, hein, le jeu s'est vendu à 6,5 millions d'exemplaires. dans le monde, ce qui est quand même assez énorme.
Ouais, bah, c'est des jeux porte-étendard, donc effectivement, ils sont aussi obligés de jouer sur les caractéristiques de chaque console, parce qu'il faut montrer ce qu'elle est capable de faire.
Moi, je me rappelle que Twilight Princess, on digresse un peu, mais est sorti au début de la Wii. Il est sorti à la fois sur GameCube et sur Wii. Et sur Wii,
c'est un jeu GameCube à la base. Hein.
C'est un jeu GameCube, mais il a été porté sur Wii. Moi, j'ai acheté la Wii pour Twilight Princess.
Comme Breath of the Wild, hein. Je pense que les gens ont tendance à oublier qu'à la base, c'est un jeu Wii U.
Oui, ah ouais, bah c'est clair qu'on l'a complètement on l'a complètement zappé, mais le à l'époque, du coup, Twilight Princess exploitait, on te vendait le jeu comme le fait qu'effectivement, tu allais pouvoir te battre avec en secouant la manette, ça allait secouer l'épée. Bon, c'était finalement un peu brouillon, et surtout que tu pouvais pêcher. Tu pouvais faire les mouvements basiques de la pêche. J'envoie ma canne à pêche, je ramène, je fais tourner.
Tu pouvais acheter le module de pêche du jeu de pêche, ouais, qui fonctionnait. Voilà, c'est une série qui, en fait, elle se suffit elle-même. Elle se nourrit d'elle-même. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire.
Alors le truc, c'est que tu l'as dit, donc c'est une série qui est organique dans son essence, c'est-à-dire qu'elle évolue constamment et elle cherche constamment à se renouveler, et ça nous amène à parler du coup de sa suite, donc The Legend of Zelda 2, donc The Adventures of Link, et là on va passer sur autre chose.
Vous avez aimé le premier, vous n'aimerez pas le deuxième.
Ouais, c'est ça. On a parlé de changement et on a énormément, même si on est sur la même console, on a pas mal de changements. Alors, pour revenir un peu sur la création de ce deuxième, faut savoir que tu l'as dit tout à l'heure, mais les jeux sur NES à l'époque se vendaient sur des disques. Sur des disquettes.
Ah, c'était une extension de la NES au jeu, le Famicom Disk System, ouais, qui permettait en théorie d'avoir plus de mémoire et un meilleur son.
À l'époque, en fait, c'était principalement vendu au Japon, ça coûtait 15 000 yens, le Mario, Super Mario Bros. Avait fait un carton, et il s'était dit, on va vendre, pour vendre l'adaptateur de disque système, on va refaire un Super Mario Bros. 2 sur disque système, du coup, ça, pour inciter les gens à acheter l'adaptateur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, c'est Nintendo, donc ça a plutôt bien fonctionné, sauf qu'ils l'ont développé quand même, d'une part, assez vite, ce qui fait qu'ils se sont pris une volée de bois vert, ils se sont pris pas mal de critiques disant que Super Mario Bros. 2, Ouin-ouin, c'était quasiment similaire au premier. Il n'y avait pas grand-chose qui changeait, pas vraiment de renouvellement, tout ça. Miyamoto a vu ça et en fait, au moment où il a perdu quasiment toute l'équipe du premier Zelda qui était passée sur le développement de Super Mario Bros. Il s'est retrouvé avec une équipe qui n'avait pas fait le premier Zelda et en se disant, on va tout changer. On fait un peu table rase et c'est comme ça que Adventure of Link c'est sur ces bases-là que va débuter en fait le développement de Adventure of Link, je vais y arriver. On va tout garder, on ne coupe rien, et c'est ça qui lance un peu le développement de ce jeu, avec cette volonté de changer les choses.
Alors on change, on garde l'univers à les mêmes bases, hein. Donc c'est toujours Link, Ganon a disparu, mais ses sbires sont toujours là, etc. Par contre, ce qui change, c'est qu'on passe d'un jeu en 2D isométrique à un jeu en vue de côté, en 2D pur de plateforme, avec des phases qui ne sont pas sans rappeler Mario, hein, clairement.
Ouais.
Par contre, faut aussi dire que c'est un jeu qui a une très 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 mauvaise réputation.
Oui.
Et qui est à mon sens aussi très 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 injustifié. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il apporte énormément de bonnes et de nouvelles choses à la série. Moi, ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, par exemple, c'est un système qu'on retrouve pas. Que je dise pas de bêtises, il me semble qu'on le retrouve pas. C'est le système d'expérience qui permet d'augmenter ses niveaux de magie, etc.
Non, tu n'as pas de ça dans les autres Zelda, effectivement.
Donc ça, c'est plutôt bien, parce que oui, donc on peut augmenter le niveau de ses attaques, de ses, de sa magie ou de sa vie. Donc la vie augmente tout le temps. Vous savez que quand on termine un donjon Zelda, on gagne un cœur. Cœur qu'on peut aussi gagner en récupérant des quarts de cœur. Hein, quatre quarts faisant, attention, un cœur. Mais là, on peut augmenter de la magie, parce que Link est aussi un magicien. Et il est aussi quelqu'un qui a besoin de taper fort ses ennemis, parce qu'il y a une variété d'ennemis qui est assez impressionnante. Alors, encore une fois, on est sur NES, donc ça peut simplement passer d'un blob qui est bleu, ben ça devient un blob rouge, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il y en a un qui peut sauter plus loin, etc. C'est intéressant. Et par contre, c'est un jeu qui nécessite énormément de concentration, qui est très, très punitif, je trouve, beaucoup plus que le premier.
Ouais, il a la réputation d'être assez injuste.
Avec une hitbox qui n'est pas toujours très bien programmée.
Parce que moi, j'avais posé une question, comme je ne l'ai jamais fait, je me disais, ah, c'est bien si on peut monter en expérience, du coup, ça crée comme une espèce de mode facile.
Ouais. Si tu ne l'as jamais fait...
C'est important pour Gilo d'avoir
oui,
un mode
moi,
facile.
Moi, j'aime bien les jeux avec un mode facile.
Non, mais alors, j'ai encore mieux pour toi, vois-tu. Tu ne t'embêtes pas à dépenser 60 à 70 euros pour une cartouche en loose sur Price Minister ou sur Vinted. Tu vas sur le Nintendo Online sur ta Switch, et tu le lances et tu as un mode rewind.
Donc je connaissais pas ça.
Et ben voilà, alors ça permet, je suis en train de refaire le 1 juste avant là-dessus, ça permet simplement de repartir 3 secondes en arrière et d'éviter de tomber dans un trou ou de se faire bolosser par un moblin perdu.
C'est comme dans Prince of Persia, les sables du temps.
Ouais, sauf que là, le rewind est automatique. Il est inclus de base, donc c'est assez facile de s'en servir. Et en toute honnêteté, je ne suis pas convaincu que sans cette option, actuellement, le jeu, hormis pour vraiment des purs hardcore gamers, soit jouable actuellement en 2020. Après tant d'évolutions dans la pratique du jeu vidéo, aujourd'hui, les jeux des premières consoles sont très difficiles et sont très punitifs.
C'est sûr que je préférerais un mode où on ne tombe pas.
Bah, oui, bah alors ça, il n'y a pas, mais Gilo, tu rates quelque chose, tu peux repartir en arrière.
Gilo cherche un mode histoire, même sur les jeunesses.
Après, pour revenir sur Zelda 2, Link, il peut utiliser plusieurs magies. Il y a encore une fois beaucoup d'items, et il y a, ce qu'il n'y avait pas dans le premier, des quêtes annexes.
Et il faut signaler qu'il est plus long, il est au moins un quart plus long que le premier. En durée de vie, il est à peu près à 11 ou 12 heures. Si je dis pas de bêtises.
Bah, je t'avoue que j'ai du mal à estimer la durée de vie d'un jeu comme ça. Moi, à titre personnel, je vais mettre 50 heures à le refaire, tu vois. Après, le speedrunner, j'en sais rien. Il y a plus de choses à faire, donc il est forcément plus long. Il est plus long parce qu'il est plus dur, mais il est plus long parce qu'il y a aussi beaucoup plus de contenu. Hein. Encore une fois, les quêtes annexes, ils demandent d'aller à un bout de la carte pour ramener une statuette, pour ramener tel ou tel objet, un miroir, un PNJ. Ça nécessite du temps. Et il y a aussi des objets qui sont obligatoires. Si on les a pas, on est bloqué.
Mais du coup, quand on dit quête annexe par rapport à ce qu'on peut avoir en tête maintenant, c'est ce qu'on appellerait une quête FedEx, parce que forcément, le support fait que t'as pas, c'est juste un objet à retrouver, à ramener.
C'est ça. Okay. Faut aller parler dans un village à une vieille dame qui va te dire, va à l'autre bout du monde parler à un vieux monsieur. Et j'ai l'impression d'être Perceval qui raconte ses aventures. Après revenir, elle te dit, ah bah tiens, je te donne mes palmes. Mais c'est une quête FedEx de 1988. Nous, avec nos yeux de personnes du 21e siècle, oui, ça peut paraître énervatif. D'autant plus que ça sert à poursuivre l'histoire. C'est une quête annexe obligatoire. Ce n'est pas une quête à la World of Warcraft. Va tuer 10 jeunes loups, puis 10 loups anciens, puis 10 loups alpha. Et puis, voilà.
J'aimerais quand même juste revenir un peu sur le système de combat, parce que pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, donc vous avez quand même. Il y a plus de vue de trois quarts sur cet opus. Hein. On est vraiment sur sur une phase, soit des phases de vue aérienne où les ennemis apparaissent, à la différence d'un Final Fantasy ou d'un Dragon Quest. Donc, quand les ennemis vous rencontrent, du coup, vous les affrontez, et vous les affrontez en scrolling vertical. Donc, en fait, comme un Mario Bros. Et donc, vous pouvez taper en bas, vous pouvez taper en haut. Vous pouvez vous protéger de mémoire ?
On est protégé, je crois qu'on est protégé d'office. En fait, tant que tu ne tapes pas, c'est comme dans le 1, Link porte son bouclier en permanence.
J'ai envie de te dire que c'est comme dans Smash Bros.
Quand tu ne tapes pas, tu es protégé derrière ton bouclier, ça. Sauf dans le 2, si tu as une attaque basse, dans ce cas-là, il faut t'abaisser. Et en fait, la difficulté du jeu, c'est tout un timing à trouver entre l'ennemi me tape, je tape, mais on n'oublie pas qu'il y a une latence quand même. Attention. Ouais. Et voilà, c'est un petit jeu de, c'est presque un petit jeu de rythme en fait, chaque combat. C'est tac, je tape, ça, etc.
C'est ça qui est intéressant, c'est que là, t'as une composante qui est plus épique. Alors que autant les ennemis dans le premier, c'était des obstacles. Autant dans celui-là, tu t'es vraiment dans des combats, dans du fight, quoi. Et ça, bon, je vais spoiler la fin, mais bon, spoiler un jeu qui a 30 ans, 33 ans.
Bouchez-vous les oreilles.
Voilà. À la fin, t'affrontes Link Maléfique. Enfin, t'affrontes ton ombre, ton double.
C'est ça.
C'est quand même assez stylé parce que tu affrontes ton toi-même dans un combat à l'épée, tout simplement. Ce qui sera repris ensuite dans d'autres jeux Zelda et notamment dans ce qui est peut-être le combat le plus dur de tout Ocarina of Time, c'est-à-dire le combat contre ton ombre. Et tu l'as déjà en fait à la fin de Zelda 2.
Il y a une sensation de chaque combat, il t'apporte des points d'expérience, mais quand tu arrives à vaincre l'adversité, t'es content. Même le moindre petit mob, s'il est placé sur une plateforme que tu dois franchir, il peut te poser des soucis. Donc il y a un sentiment d'accomplissement à chaque fois qu'on arrive à surmonter un obstacle qui soit de type plateforme ou de type adversaire à vaincre. Et on progresse tout le temps comme ça. C'est voilà, encore plus que dans le premier, il faut prendre son temps dans le deuxième, je pense, pour l'apprécier. Après, il a aussi des arguments contre qui font qu'on comprend tout à fait pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Notamment la vue en 2D, c'est... Voilà, ça casse un petit peu d'immersion, ça casse le sentiment d'exploration. Parce que l'exploration n'est que latérale.
Ouais.
Voilà. C'est
pourtant,
plutôt.
Tu visites quand même des villages, t'as quand même pas mal de PNJ.
Beaucoup plus de paysages et de zones différentes, mais il y a, comme ça défile sur l'écran, il n'y a pas ce sentiment de se promener en fait librement. La liberté est beaucoup plus restreinte.
Tu as aussi une histoire qui est plus profonde. Enfin, qui est plus profonde, pas tant plus profonde, mais plus poussée quand même.
Bah, déjà oui, parce que tu as beaucoup plus de PNJ.
Oui, donc, dès le début. Dès le début, avec l'histoire de la princesse Zelda qui est... En fait, quand vous commencez Zelda 2, vous avez directement la princesse Zelda qui est endormie. En fait, c'est le premier écran du jeu qui est le plus iconique. On va dire, vous avez Link qui est au niveau de la princesse Zelda, dans le temple où la princesse Zelda est endormie. Et bon, voilà, encore une fois, il faut la sortir de son sommeil.
C'est la suite, en fait. Hein.
Ah, c'est la suite directe, ouais.
Ganon a été vaincu. Et...
Oui, Gilo.
Non, parce que c'est la question que j'allais poser, justement, toujours pour un novice comme moi, mais comme on a dit tout à l'heure que la chronologie de l'ensemble de la saga était très éclatée, ces deux-là, ils se suivent chronologiquement, alors.
Oui, oui. Ceux-là, oui.
Oui, ceux-là, il n'y a pas de... Il y a aucun problème pour les placer, c'est l'un après l'autre, si je puis dire.
Ok.
Oui, c'est clairement ça, c'est quelques mois après, si on prend la présentation officielle, c'est ça.
Parce que Ganon est cité dans le jeu, mais il n'est pas présent.
Non.
Étant donné qu'il a été vaincu.
Voilà. Et c'est en reconstituant la Triforce que tu arriveras à réveiller Zelda.
Voilà.
Il y avait des donjons à visiter dans le premier. Là, il faut récupérer des cristaux, etc. Et c'est là où on a la répartition de la Triforce.
Il me semblait que c'était Link to the Past, parce que je l'ai cité tout à l'heure plus tôt dans le podcast.
Ah, j'ai pas. Non, je confirme que c'est là.
C'est là, ok.
Ouais. Déjà.
Corrigé dans le podcast, c'est quand même.
N'est-ce pas ? Erreur auto-corrigée. Encore une fois, juste pour signaler que si le jeu est sorti en 88 au Japon, donc à un moment où en France, on n'avait toujours pas le premier, hein, pour rappel, hein, en France, on a eu le premier octobre 88 pour les plus chanceux et surtout début 89, il est sorti en avril 90. Tiers monde du jeu vidéo.
C'est le temps de le traduire.
Ouais, c'est. vu tout ce qu'il y avait à traduire.
Je voulais rajouter aussi que c'est un des rares Zelda où, peut-être même le seul, si je ne dis pas de bêtises, où il n'y a pas de rubis.
Oui, il n'y a pas de. Tu n'achètes rien du tout.
Tu n'achètes rien. Tu trouves les objets, tu les gagnes dans les donjons, etc. Mais sinon, il n'y a pas de commerce. Et c'est, il faut trouver la vieille de chaque village qui te redonne ta vie. Je parle beaucoup du défilement. Il y a quand même une petite part où il y a une vue isométrique quand on est sur la carte du monde. Mais c'est très succinct parce que d'autant plus qu'on est poursuivi par des ennemis et qui dès qu'ils nous contactent, ça entraîne une phase en 2D.
Donc c'est soit c'est stressant en plus cette partie-là, oui, parce que les ennemis vont très vite.
Ils vont très vite, donc ils nous rattrapent. Après, il y a possibilité de fuir en traversant toute la le niveau latéral, hop, en partant très vite.
Sort de tableau.
On évite le combat, mais voilà, il y a toujours ce côté on est poursuivi par les ennemis.
Mais du coup, ça veut dire qu'entre les deux épisodes, le système économique du monde d'Hyrule s'est effondré, non ?
Ah ben, on est passé de l'ultra-libéralisme à l'anarchisme autosuffisant basé sur le troc. C'est
ah ça. Ouais,
c'est... Ah ouais.
Voilà.
Il y aurait des histoires à développer là-dessus. Hein.
Sûrement.
Juste pour dire que du coup, le jeu s'est moins vendu. Bon, c'est quand même très bien vendu, hein, mais il s'est vendu à 4,4 millions d'exemplaires, alors que le premier, c'était à 6,5 millions. Ce qui a fait dire à Miyamoto, quelques années plus tard, en 2013, lors d'une interview, qu'effectivement, il y avait... attends, je ne sais plus exactement comment il l'a dit, mais qu'en gros, il était assez déçu et qu'effectivement, ils auraient voulu faire mieux sur ce jeu. Bon, après, c'est... Je pense que c'est dans l'essence de la série Zelda que de tenter des choses. Et quand tu tentes des choses, il y a des fois, effectivement, t'es moins bien accueilli. S'ils n'avaient pas tenté, si tu tentes pas, en fait, t'as pas après des super opus. Hein, et oui, Gildas.
Ben, sur les ventes, nonobstant le côté, on va dire, un peu atypique du jeu, il faut aussi tenir compte du fait que 2 ans après la sortie de Zelda 2 sur NES, il y a la Super Famicom qui arrive. Donc la durée de vie de la NES se rétrécit et donc les gens se déportent. Leur première console, c'est plus la NES, ça devient la Super NES. Donc le jeu est moins vendu aussi. Parce que on en parlera dans le prochain épisode, mais il faut voir aussi qu'après Zelda 2, il y a Link to the Past.
Link to the Past qui va vraiment être
dans le genre
un carton.
Pierre angulaire de quelque chose, lui, il est là quand même. Hein.
Ouais. Ah ouais, parce que là, on vous a parlé des deux premiers. Bien entendu, si vous appréciez Zelda, vous savez, vous devez savoir que le Link to the Past, c'est un des jeux parmi les plus importants, les plus emblématiques, et qu'on abordera bien entendu avec grand plaisir. Il aura son épisode dédié parce qu'il le mérite. Et effectivement, lui, il va arriver dès 92. Donc voilà, donc on aura le temps d'en reparler. Juste un petit sondage, alors qui date de 2017, donc pour le coup, il a pu évoluer en 4 ans parce qu'il est sorti juste au moment l'année de sortie de Breath of the Wild. Mais faut savoir qu'en fait, pour la plupart des Français gamers qui ont découvert Zelda, le premier des Zelda, c'est The Legend of Zelda, le premier épisode de 86 pour 16,5% des gens de ce sondage, 16% des Français ont découvert Zelda par le premier épisode, par le tout premier épisode, ce qui est quand même assez conséquent. Il faut savoir que le deuxième épisode est cité que dans 3% des cas, alors que toujours selon ce même sondage, pour Link to the Past, ça va être 14% des joueurs, et Ocarina of Time, c'est le plus élevé avec 20%. Des joueurs qui ont découvert la saga avec cet opus. C'est quand même assez énorme. Je serais assez curieux maintenant de voir l'impact que Breath of the Wild aura eu sur les jeunes générations. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure ensemble. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas le
sujet. Le panel des gens interrogés, c'est toujours pareil.
C'est 5500 personnes.
5000 joueurs, ok.
5000 joueurs, ouais. Ah ouais. Ça, le sondage a été diffusé sur les. Il a d'abord été diffusé. Je crois qu'il a fini par se diffuser sur les réseaux sociaux. Attends que je te dise pas de bêtises parce que j'ai les sources qui sont juste à côté. On ne fait pas du travail de sagouin dans ce podcast. Enquête réalisée par auprès de 5122 gamers par le même journaliste Florent Gorge sur Internet entre le 26 avril et le 22 mai 2017. Tu vois, donc c'était vraiment juste après la sortie de Breath of the Wild. Ces chiffres ont forcément évolué.
Florent Gorge, qui actuellement fait un live play de Zelda 2 sur sa chaîne YouTube ou Twitch, je ne sais plus.
Mais c'est, donc c'est lié. À mon avis, ça doit être là. Ouais, à mon avis, ça doit être Twitch, mais tu dois avoir les replays sur YouTube. Et donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble Zelda 2. Justement, sur quoi on peut donc on l'a un peu cité, mais donc on peut jouer à ces deux jeux sur la Switch.
Alors, à titre personnel, Zelda 2, je l'ai découvert sur Game Boy Advance Micro. Vous laissez imaginer. C'est top T. Ouais. Mais il est ressorti, ainsi que The Legend of Zelda d'ailleurs, sur Game Boy Advance. Ils sont ressortis sur GameCube, sur Wii, sur 3DS, sur Wii U. Donc Wii U et 3DS et Nintendo Switch, ce sont des éditions seulement démat. Les éditions Game Boy Advance sont des éditions cartouches.
Tu avais une version cartouche collector GameCube, je me rappelle, avec au moins 4 jeux. Tu devais avoir les deux premiers et tu avais également Ocarina of Time et il me semble Majora's Mask.
Du coup, dans ces rééditions, c'est vraiment juste des rééditions. C'est le même jeu.
Il n'y a que sur Switch où tu as le Rewind.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, franchement, si vous avez la Switch, faites-le sur Switch.
Faites-le sur le... Donc, le comment on appelle ça, le système...
Le Nintendo Online.
Le Nintendo... Le NES System et le Super NES. Enfin, en gros, pour les applications pour jouer aux jeux NES et aux jeux Super NES.
Qui nécessite un abonnement annuel de 20 euros. Qui permet aussi l'accès aux jeux en ligne sur Switch, mais on est tous d'accord qu'on est abonné pour jouer aux jeux NES et Super NES sur sa Switch.
Et pour jouer à Mario Kart, mais ça oui, c'est moi.
Ben voilà.
Voilà. Je pense qu'on a brossé quand même un petit portrait de ces deux jeux. Donc, comme on vous l'a dit, il va y avoir plusieurs. On va en faire plusieurs des numéros sur cette saga Zelda. J'espère que
le prochain, ça devrait être en théorie seulement sur Link to the Past.
Oui.
A priori, le prochain devrait être sur Link to the Past parce que je suis nul dans cette partie de la chronologie et je ne sais jamais quand est sorti Link's Awakening. Le prochain, on va le faire sur Link to the Past. Donc, attendez-vous à un numéro assez costaud.
Link to the Past étant sorti en 91, Link's Awakening 93.
Eh oui, tu as raison. Eh bien, ce sera le prochain épisode et donc validé. Ce sera sur Link to the Past. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on vous dit à très bientôt pour le cinquième épisode de Passe la Manette. Portez-vous bien et à la prochaine.
Salut,
ciao.
Salut.
Ciao, ciao.
Try again.
That's it, man. Game over, man. It's game over.